C'est trop bien la radio!
Principe actif 102.4 FM.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre antenne et en direct de la médiathèque d'Évreux où nous nous retrouverons pour une double occasion, les journées européennes du patrimoine et puis l'anniversaire de la médiathèque qui a 20 ans cette année. À cette occasion, eh bien, vont se vivre des journées exceptionnelles aujourd'hui et demain. À cette occasion, il y aura donc des animations, des conférences, des rencontres publiques, bien entendu, libres et gratuites. Il vous suffit de venir jusqu'à la médiathèque. Nous y sommes jusqu'à 17h30 aujourd'hui. Vous nous retrouverez également en direct demain de 16h à 17h30. Pour empaqueter cette émission, vous la livrez jusqu'à vos douze oreilles. Nous avons constitué une équipe de choc, à savoir que nous avons l'amideuse qui aura réalisé bon nombre de reportages que vous trouverez durant cette émission, qui s'assure au bon fonctionnement des choses et qui viendra le croiser le micro avec nos invités. Il y a également le fabuleux Monsieur Pignon que nous retrouvons un instant derrière les manettes, mais qui bien entendu aura arpenté les couloirs de la médiathèque avec son micro. Un petit extrait justement de ce qui va vous attendre en termes de reportage.
C'est quoi pour vous les journées du patrimoine?
Est-ce qu'il y a un lieu
à quelle fréquence vous venez à la médiathèque?
Genre, je vous embête de petites.
Est-ce que vous venez y chercher à la médiathèque?
Voilà. Un florilège de questions, hein. Vous aurez les réponses tout à l'heure en écoutant cette émission, bien entendu. Mais je trouvais ça plutôt sympa, voilà, d'entendre les questions. Vous avez vu, ils ne sont pas avares de questions, nos reporters, bien entendu. Ces journées exceptionnelles ont commencé hier. Bah oui, hein, elles ont commencé hier. Ne rigolez pas, monsieur Pignon. Hein. Elles ont commencé hier, ces journées exceptionnelles, notamment avec l'inauguration des journées européennes du patrimoine. C'était hier, sur la médiathèque d'Évreux. Et monsieur Pignon a laissé traîner son micro. C'était les captations du micro de Monsieur Pignon hier soir à l'occasion de cette inauguration des journées européennes du patrimoine. Alors au sommaire de cette émission, eh bien, nous rencontrerons ceux qui font la médiathèque, ceux qui font les conférences et les animations de ce week-end, à savoir que nous aurons autour de nos micros Jean-Louis Villeval, qui est vice-président du centre Lianis Xenakis. Nous aurons également Muriel Bloch, conteuse à nos micros. Nous aurons également Paul Chemetov, architecte et plus précisément architecte de la médiathèque d'Évreux, qui viendra à notre plateau en compagnie de Dominique Chelot, conservatrice de cette médiathèque. Les reportages, eh bien, vous aurez de la voix d'usagers qui ont témoigné sur leur pratique d'usagers de cette médiathèque. Nous aurons également les salariés de la médiathèque et puis également des enregistrements sur l'espace enfant, celui qui se retrouve, sur le sous-sol. Voilà pour le programme de cette émission.
Vous êtes bien content que je sois là?
Que je sois. Oh là là, putain, tu sais bien parler français.
Ça te va, toi, de vanner? Moi, je me comprends et c'est tout qu'est-ce qui m'intéresse.
Je vous ai compris.
Principe actif, 102.4 FM.
Voilà, et puis nous vous l'avions promis que nous allions avoir le personnel de la médiathèque à nos micros. Nous avons notamment Antoine Joly, qui est notamment responsable des actions de développement et culturel. Et nous avons Catherine Lelory, responsable de l'espace livre et artothèque. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, deux jours de festivités, enfin trois si on compte l'inauguration qui a lieu hier d'ailleurs, trois jours de festivités autour des 20 ans de la médiathèque et également à l'occasion des journées européennes du patrimoine. Nous aurons l'occasion de revenir sur cette notion de patrimoine et notamment patrimoine du 20e et du 21e siècle, le patrimoine récent. Mais je souhaitais vous avoir à nos micros pour parler un petit peu de ce qui se passe sur la médiathèque, notamment aujourd'hui et demain. Pour commencer assez rapidement, se déroule actuellement la conférence de Paul Chemetoff, architecte de cette médiathèque notamment. Quels sont en fait le thème de cette conférence, c'est la place de la bibliothèque dans la cité. Quel était l'intérêt de recevoir Paul Chemetoff dans cette médiathèque 20 ans après?
De recevoir Paul Chemetoff était vraiment qu'il nous parle de son parcours, des constructions des bibliothèques qu'il a faites depuis, puisque la bibliothèque médiathèque d'Evreux était sa première réalisation. Il en a construit 7 par la suite. Et puis revenir à Evreux, c'était également parler finalement de véritablement la place de la médiathèque d'Evreux au cœur de la ville. C'était vraiment ça la conférence. Elle est inscrite dans le centre-ville et finalement 20 ans après, on s'aperçoit, et Catherine, je pense que tu en es d'accord également, qu'elle n'a pas vieilli et qu'elle est totalement intégrée dans le centre, comme Paul Chemetoff le dit à un moment donné, dans un salon où il y a le théâtre, la maison des arts, l'hôtel de ville. Voilà, avec une architecture très contemporaine, il le dit, elle aurait pu être construite il y a 20 ans ou hier, ça reste un bâtiment actuel.
Catherine, il y a également une conférence autour de Yanis Xenakis.
Oui, il y a une conférence concert à 17h de Yanis Xenakis, donc qui est un compositeur d'origine grecque dont l'épouse était écrivain, qui est venu jouer à Évreux il y a quelques années dans le cadre du festival organisé par Madeleine Roy. Donc ça s'est situé dans la halle des expositions et c'était des concerts absolument magnifiques. Donc une conférence à 17h par le vice-président du centre Yanis Xenakis, suivie de l'interprétation de la pièce musicale par le Diplixia, par le collectif The Experiment.
Dans les spectacles proposés, il y a également la conteuse Muriel Bloch qui sera présente aujourd'hui.
Oui, Muriel Bloch finalement avait inauguré il y a 20 ans l'espace jeunesse, en particulier la bulle avec ses contes. Et donc elle revient. Depuis ce matin, elle intervient dans différents espaces de la médiathèque pour des petites formes où elle raconte des histoires, elle n'en lit pas, elle ne fait que raconter de son imaginaire. Et ce soir, elle propose un spectacle à 20h dans la poursuite de ces petites formes. Voilà.
Spectacle tout public ?
Tout public.
Très bien, il y a également des expositions qui recouvrent une partie des murs de cette médiathèque. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots des expositions?
Il y a une très belle exposition de Thierry Bouffiès, qui est donc un photographe hébroïcien, dont certaines photographies ont déjà été exposées dans le cadre de l'exposition Alexandre Lannon au musée. Et donc là, la médiathèque est très heureuse d'accueillir pour la première fois des photographies du bâtiment de M. Chemetoff.
Alors les archives sont aussi de sortie, notamment sur ce week-end.
Oui, puisque nous fêtons les 20 ans, donc nous sommes replongés dans les archives d'il y a 20 ans pour ressortir, par exemple, la réponse d'appel d'offres de Paul Chemetoff, ses dossiers, ses plans, la maquette. Dès que vous rentrez dans la médiathèque, vous tombez sur la maquette de la médiathèque. Différents mobiliers, on a reproduit le mobilier qui avait été imaginé, conçu pour l'ouverture de la médiathèque. Et également des photographies de chantier.
Demain, dimanche, la médiathèque ouvre ses portes également avec d'autres conférences, des projections et des rencontres. Notamment une conférence, alors que je vois, croisée d'Elsa Triolet et Louis Aragon.
Oui, Elsa Triolet et Aragon sont donc emblématiques aussi du lieu, puisqu'il y a eu une sublime exposition. Il y a déjà eu une exposition à Aragon qu'on a accueillie ici, un travail autour d'Aragon. On a accueilli déjà un spectacle, une lecture-spectacle par Bernard Vasseur, donc qui sera là, directeur de la maison Elsa Triolet à Aragon. Donc conférence, lecture de l'œuvre.
Il y aura également une projection rencontre, Rimbaud, l'heure de la fuite, c'est ça ?
Oui, par Alain Borer, donc le spécialiste d'Arthur Rimbaud, qui intervient à partir de 17h à la médiathèque. Voilà, l'idée, c'était chaque nom d'inviter des conférenciers dont des espaces portent les noms de personnalités.
Oui, voilà, parce que sur la médiathèque, chaque espace porte un nom, et notamment, c'était mettre à l'honneur les noms figurant dans les salles de la médiathèque. J'imagine que c'est ouvert à tous et c'est gratuit, bien entendu, ces animations, ces conférences, ces rencontres, ces spectacles.
Bien sûr, c'est ouvert à tous et c'est
gratuit. Et la médiathèque, pour ajouter un tout petit peu, la médiathèque sera ouverte le dimanche de 13h30 à 18h.
Est-ce que ce type d'animation, ce type d'événement, c'est à l'occasion des 20 ans ou tout au long de l'année, on retrouve une programmation d'événements, de rencontres, de projections? Est-ce qu'il y a une vie d'animation au sein de la médiathèque?
Alors, cette concentration, oui, c'est pour les 20 ans et les Journées européennes du patrimoine, voilà, sur un week-end. Mais il y a une programmation tout au long de l'année, des projections, des rencontres. Catherine Lollery organise, imagine et met en place tout un cycle de conférences ouvert le lundi sur des questions d'actualité. Projections, ciné-club, des rencontres d'auteurs. Le 26, Natacha Apana se rendra à la médiathèque pour parler de son dernier roman. Que dire d'autre? Voilà. Quasiment tous les jours, une activité.
Et d'une grande richesse et d'une manière de rendre la culture vivante actuelle, avec des rencontres, donc avec des créateurs. Comme le dit Antoine, modestement, il organise aussi, enfin, il organise surtout beaucoup. On aura Alexis Génie, quand même, en auteur, le 10 octobre. On a un nouveau cycle, Entrée en philosophie, avec une conférence de philosophie. Et un mois du film documentaire dont s'occupe Antoine, en collaboration avec le Conseil Général, sur l'année France-Corée 2015-2016.
En tout cas, voilà.
Plus les animations jeunesse.
Et ben voilà. Toutes ces infos, bien entendu, on peut les retrouver sur le site de la médiathèque d'Evreux, bien entendu. Merci à vous,
merci.
Antoine et Catherine, d'être passés par nos micros. Je vous propose, justement, nous l'évoquions, nous sommes sur la journée européenne du patrimoine. Je vous propose un petit micro-trottoir autour des journées du patrimoine.
C'est quoi pour vous les journées du patrimoine? À quoi ça peut servir?
Je pense que c'est essentiellement pour découvrir le patrimoine de la ville. Voilà, pour un peu intéresser les gens qui ne s'y intéressent pas du tout, peut-être.
Ça représente l'occasion de visiter des choses qu'on ne voit pas tous les jours.
Tout à fait, oui. Il y a des monuments qui ne sont ouverts que ce jour-là, des endroits où on ne va pas, voilà.
Ça permettrait pour moi de pouvoir plus connaître ce qui est présent dans notre ville, l'histoire de notre ville aussi, pourquoi pas, et de redécouvrir d'une certaine manière la ville.
Pas grand-chose, je ne m'y intéresse pas trop.
Et en quoi ça peut être important, qu'il y ait ces journées du patrimoine?
Je pense que ça a un but, peut-être plus éducatif. Mais après, je saurais pas.
Par rapport à ce qu'on peut présenter, ça permet de souvenir de certaines époques, de comment on faisait les bâtiments, etc. avant, et de prouver qu'il y avait certaines techniques qui étaient utilisées. Enfin, c'est toute une histoire, toute une culture liée à la ville.
C'est une manifestation plutôt intéressante. On s'y est habitué parce que ça fait quand même beaucoup d'années maintenant et on attend toujours le nouveau thème. Là, je pense que c'est l'architecture. Donc c'est intéressant parce qu'il y a un renouveau en même temps.
Mais important, l'important c'est plus difficile à définir quand même. C'est important, mais pourquoi? Ça, je ne saurais pas le dire. La culture est quelque chose d'important pour moi, mais bon, j'ai constaté que c'était pas le cas pour tout le monde, et c'est un peu pour ça que j'aurais du mal à le définir. C'est important. Pourquoi, je ne saurais pas vous le dire. Et finalement, mes raisons doivent m'être propres parce que je constate que ce n'est pas important pour tout le monde.
Je pense, étant donné le nombre de gens qui en profitent pour visiter des tas de lieux, oui, je pense que c'est important.
Girl, one and only, Junior Mervyn, from those time until this time and forever. The big song call, police and tea, them still around the street, I am.
Police and thieves in the street, fighting the nation with guns and ammunition. Police and thieves in the street, scaring the nation with their guns and ammunition. From Genesis to Revelation, the next generation. Guide up, guide up, guide up.
Alors, comme nous le disions en début d'émission, c'est le personnel de la médiathèque qui a participé, enfin qui a fait cette programmation musicale. Frédéric, c'est vous qui avez choisi cette pause musicale. Une petite désannonce et dites-nous quelques mots sur cette pause musicale.
Quelques mots, oui, c'est un grand monsieur du reggae qui nous a quitté l'an passé, un Jamaïcain, Junior Mervin. Qui chantait la paix, Police and Thieves. En fait, c'est une chanson qui raconte l'histoire d'une insurrection faite par la police jamaïcaine contre les Rastas. Et donc, c'était un grand homme de paix, une des plus grandes voix du reggae.
J'imagine un CD qu'on retrouve dans les rayons de la médiathèque.
On a l'intégralité de cet artiste, évidemment, au rayon discothèque de la médiathèque.
Eh bien, merci Frédéric.
Je vous en prie, Jean.
Vous êtes bien sur Principe Actif, 102.4 FM.
Voilà, les joies du direct nous amènent à changer l'organisation de cette émission, mais nous sommes parés à toute situation. Nous accueillons maintenant autour de nos micros Paul Chemetov et Dominique Chelot. Alors Paul Chemetov, vous êtes l'architecte de la médiathèque d'Evreux, mais plus largement vous êtes un architecte reconnu et de renom. Et Dominique Chelot, vous êtes à nouveau la conservatrice de cette médiathèque d'Evreux. Je dis à nouveau car vous êtes la conservatrice d'ouverture de cette médiathèque. Vous avez ensuite vaqué à d'autres horizons professionnels et vous revenez depuis cette année, si mes infos sont bonnes, comme conservatrice de cette médiathèque. Bonjour à vous déjà. Et ma toute première question, c'est comment se réfléchit un projet entre un architecte et une conservatrice? D'ailleurs, se réfléchit-il ensemble un projet architectural et notamment celui de la médiathèque d'Evreux? Comment ça se passe, le travail commun, s'il y en a?
Oui, bien sûr, il y a un travail en commun, bien que pas au tout départ, bien sûr. Le choix de l'architecte se fait après concours avec un jury auquel ne participe pas le professionnel. Et bien sûr, il a examiné les différents dossiers, il les a critiqués, il a proposé son analyse des différentes maquettes aux élus. Mais après, sa voix n'est absolument pas délibérative. Bon, il se trouvait que Monsieur Chemetov a remporté ce concours un petit peu haut la main, on va dire, et qu'il n'y avait pas de problème, et que ça ne m'a pas personnellement posé de problème, que c'était un projet qui me plaisait beaucoup. Après, pour la suite, peut-être que Monsieur Chemetov va continuer à répondre, mais je pense que, pour moi, ça a été une collaboration exemplaire, parce que ça a été une collaboration avec le cabinet. C'est-à-dire qu'il y a pu y avoir ce dialogue permanent entre les deux parties tout le long du projet, depuis les premiers dessins jusqu'au jour où on a planté le drapeau sur le toit, et que on a pu échanger. Moi, j'ai pu expliquer quel était notre travail à l'intérieur de la médiathèque, les usages, les circulations, mon projet, entre guillemets, sans être prétentieux, mais mon projet bibliothéconomique, la façon dont on voulait présenter les collections, les différents circuits, celui des documents, celui des publics, enfin voilà, le projet un petit peu scientifique, on va dire, et que ça a été entendu et magnifiquement traduit. Voilà, il n'y a pas eu cette barrière qu'on entend parfois entre deux mondes qui ne se connaissent pas et qui ne se fréquentent pas. Là, je pense que déjà, il y a eu un bon dialogue entre les deux parties. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est un excellent souvenir professionnel.
Parce que du coup, voilà, vous avez rédigé ou participé à rédiger un espèce de cahier des charges, un espèce de projet plus culturel d'ailleurs que architectural, même s'il y a déjà des idées, des pistes,
non,
mais
non,
en tout cas,
tout.
Un cahier des charges.
Pas du tout architectural, oui, pour ma part.
Paul Chemetov, vous recevez du coup un projet avec des contraintes et c'est là où rentre en action toute l'ingénierie, toute la spécificité du choix d'architecte. Est-ce qu'il y a des allers-retours qui sont produits entre le projet culturel et le projet architectural, ou finalement est-ce que c'est le même, Paul Chemetov?
Ce n'est pas tout à fait le même parce que mais ils doivent converger. S'ils ne convergent pas, ils ne vont pas ensemble, ils se fâchent, ils se font la gueule, et le résultat est assez déplorable. Si vous voulez, d'une autre façon, c'est vrai qu'on avait reçu un programme avant le concours. Je pense que le projet qu'on a présenté au concours répondait au programme. Sans ça, il n'aurait pas été choisi. Enfin, j'espère.
Mais alors, est-ce qu'il va un petit peu au-delà des fois quand même? Est-ce qu'il y a, oui, mais... y a la patte de l'architecte?
Oui, mais c'est... je n'aime pas parler de la patte de l'architecte parce qu'on se met toujours sur un petit piédestal, on joue à l'artiste maudit ou pas maudit. Si vous voulez, une situation de projet, c'est une situation conflictuelle par nature. Vous avez du temps, vous avez de l'argent, vous avez des éléments contre vous. Ici, il y avait un sous-sol épouvantable. Donc, construire, c'est un peu quand vous voyez un chantier, c'est un peu Verdun toujours. Il y a de la boue, il y a des outils, des ouvriers avec des bottes, des casques et tout. Et dans cette difficulté de passer de rien à quelque chose, et de rien qui est fait avec des conditions difficiles, d'intempéries, avec des gens qui peinent à le faire, et le résultat qui ressemble à une chose comme ça civilisée dans laquelle nous sommes assis. Il faut savoir, donc, il y a ce conflit naturel. Et dans ce conflit naturel, vous travaillez, vous, avec ce que vous avez envie de faire, enfin, ce qui vous est le plus intime, le plus fort. Pourquoi êtes-vous architecte? Si c'était uniquement pour faire du chiffre d'affaires, on peut tenir, je sais pas, un commerce de gros, ou je ne sais pas, ou jouer en bourse, enfin, faire des tas de choses. Architecte, c'est autre chose. C'est quand même, c'est de... un peu s'est transformé le monde. Après la bibliothèque, ce lieu est, ou après la médiathèque, ce lieu est différent de ce qu'il était avant. Et vous-même, vous êtes différent de ce qu'il était avant. Et les gens qui viennent, apparemment, puisque je crois que vous allez en faire passer des opinions de lecteurs, de visiteurs, je suis très, très intéressé de savoir ce qu'ils vont raconter. Je ne sais pas ce qu'ils vont dire, du bien, du mal, peu importe. L'important, c'est ce qu'ils disent. Mais pour revenir sur le fond, je ne sais pas si nous avons collaboré, mais je n'ai aucun souvenir de conflit, outre les conflits matériels, normal. Tiens, il y a de l'eau dans le fond, mais ça ne fait pas un conflit. J'ai aucun souvenir de conflit sur ce chantier. Or, il y a des chantiers qui sont la guerre de bout en bout, parce que la tension économique, parce que la tension... humaine, quelquefois les gens ne s'entendent pas. La tension politique, quelquefois des municipalités changent de bord et pensent que vous êtes du mauvais bord parce que vous étiez avec l'ancienne. Et quelquefois, à Amiens par exemple, j'ai connu quelques changements de municipalité et je travaille toujours avec le même bonheur. Ça prouve que les gens ont, quelquefois, ont une conscience plus grande de l'œuvre que du règlement de compte.
Au vu de ce que vous expliquez sur le projet, comment vous le concevez, comment vous l'appréhendez, il y a une démarche qui est comparable à une démarche d'un artiste plasticien. Enfin, c'est une démarche artistique autant qu'une démarche de construction, non? Ou comment ça se situe? Enfin, moi, je ressens ça, en tout cas, dans la façon dont vous l'exprimez.
C'est plus compliqué, parce que, au fond, si vous faites un tableau, par exemple... vous êtes seul à vous expliquer avec votre tableau. Et votre tableau, il est sur un mur, demain il peut aller sur un autre mur, il peut revenir dans votre atelier. Un bâtiment, il est quelque part. Et non seulement il est quelque part, mais il est là pour longtemps, et aucun autre bâtiment ne sera à la place de ce quelque part. Donc ça crée quand même, dans les rapports entre les architectes, par rapport aux peintres, ou même aux écrivains, chacun sait que les artistes, ils sont tous dans un état... quand même d'insurrection les uns contre les autres, parce qu'ils pensent que chacun est meilleur que l'autre et que l'autre vous empêche de respirer. Mais dans le cas des bâtiments, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire, ce que j'ai construit ici, les autres malheureux qui ont fait le concours contre moi, ils ne l'ont pas construit. Donc ils vont m'aimer pour toujours. Par exemple, pourquoi ce sagouin a fait le bâtiment et pas moi? En fait, j'aurais fait beaucoup mieux. Il a raconté ceci, cela, mais le bâtiment ne tient pas ses promesses et autres. Autre chose, si vous voulez. C'est... donc, je plaisante là, mais en même temps, le fait que vous travaillez avec d'autres, c'est pas moi qui construis ce bâtiment. Ce sont des entreprises, ce sont des entités qui ont leur réalité technique, humaine, économique, différente de la mienne. Comment, au fond, comment diriger un orchestre rétif? C'est ça. Comment arriver à faire une symphonie? Il y a un très bon film, je crois, je ne sais pas... Probablement orchestre, c'est de Fellini peut-être. Il y a une espèce d'insurrection des musiciens contre leur chef. Et il ne faut pas arriver à cet état-là. Donc, c'est vrai que ce que vous avez envie de transmettre, pourquoi je fais tel joint comme ça, pourquoi il y a tout à coup au niveau des yeux les bouts de bois de la façade qui sont écartés pour qu'on soit un peu moins emprisonné. Est-ce que c'est artistique? Est-ce que c'est tout simplement un point de vue de bon sens? Les deux, mon général. Parce que l'effet extérieur du changement de rythme, c'est comme si vous aviez un changement de rythme dans la pièce de reggae qu'on entendait. Ça, c'est du même ordre. Vous pourriez être un peu comme un crétin, comme un métronome. Non. C'est plus intéressant.
Complètement.
Voilà. Eh bien, c'est la même chose en architecture.
Cette médiathèque est très ouverte sur l'extérieur, avec beaucoup d'endroits vitrés, des endroits, comment est-ce qu'on dit, clairvoyés, je ne sais pas, c'est entre le bois et le... Voilà, à clairvoie.
Clairvoyant.
Oui, ou clairvoyante, exactement. Est-ce que ça, Dominique Chelot et Paul Chemetoff, est-ce que ça fait partie du cahier des charges, de la discussion entre deux? Parce que j'imagine que quand on rend l'appel à concours, il y a quand même des échanges qui se produisent après. Ce choix de l'ouvrir sur l'extérieur, d'être dans un bâtiment, mais en même temps d'être dehors, voilà, comment est-ce que ça s'est travaillé, ensemble ou pas d'ailleurs, hein?
Oui, non, je crois que c'est vraiment la proposition de M. Chemetoff qui répondait effectivement au cahier des charges, mais là plus à la demande, je vais dire, politique, d'insérer le bâtiment ouvert sur la ville, en réponse à la mairie, en correspondance avec les bâtiments culturels qui étaient autour, etc. Et après, sa proposition de bâtiment avec telle façade sera plus fermée, telle autre plus ouverte, ça nous a permis, nous, d'installer la bibliothèque à l'intérieur. C'est là qu'on a fait, à notre humble niveau, un petit peu œuvre de création aussi, en se disant, on va installer les sections comme ci, comme ça, présenter les documents de telle façon. C'était ça, notre chantier, nous aussi, avec une équipe où on a quand même déménagé une bibliothèque entière et puis imaginer des tas de nouvelles sections. Mais le bâtiment a été très inspirant pour nous aussi.
Mais c'est ça, c'est au bout d'un moment, est-ce que le bâtiment joue aussi sur le projet, du
oui,
coup?
Oui, complètement, parce que quand M. Chemetoff a dit on met en valeur le mur romain, on l'utilise, ce sera la section des plus petits parce que c'est eux qui doivent être confrontés au mur romain. Bon, tout ça, c'était pour nous très intéressant pour ensuite imaginer même nos axes de travail par la suite, etc., l'atelier jeunesse. Donc oui, le bâtiment pour nous était inspirant dès le départ.
Juste avant d'écouter un petit enregistrement, je voulais revenir avec vous, Dominique Chelot. Vous avez été la conservatrice du démarrage. Vous revenez aujourd'hui. J'imagine que c'est c'est particulier, non? J'imagine qu'il y a une accroche, qu'il y a quelque chose de particulier, non? Pour être la conservatrice du début qui revient maintenant, quelques années plus tard.
C'est vrai que c'est assez émouvant déjà de revenir un petit peu sur les lieux du crime et puis de revenir pour l'anniversaire des 20 ans. Quelque part, c'est magique. Enfin, voilà, ça me fait très plaisir. Moi, je suis contente d'avoir fait plein d'autres choses entre-temps aussi, mais de revenir à Évreux, dans ce bâtiment, qui est un petit peu mon bébé aussi, quelque part. Et revenir maintenant, c'est génial. Mais c'est vrai qu'il y a eu un conservateur avant moi qui l'a fait vivre, qui l'a fait évoluer aussi. Des tas de choses se sont passées en 20 ans, les nouvelles technologies ont évolué, les choses se sont transformées, c'est normal, le bâtiment a vécu. Ce qui fait plaisir, c'est de revenir et de voir qu'il a bien vécu, et qu'il a su s'adapter à tous ces changements, justement.
Très bien, je vous propose tout de suite qu'on écoute un enregistrement réalisé par Monsieur Pignon autour de l'architecture de la médiathèque, justement.
Que pensez-vous de l'architecture du bâtiment de la médiathèque?
Moi, je trouve qu'il s'intègre pas mal dans la ville. Ce que je trouve peut-être un petit peu ennuyeux, c'est que le bois demande de l'entretien. Alors, est-ce qu'on le fait? J'en sais rien. Voilà. Bon, c'est juste une question. Je suppose qu'il était traité et que.
Très clair et très clair et très fonctionnel. Maintenant.
L'architecture, bah, j'ai tendance à pas tellement le regarder, hein, à regarder le bâtiment. C'est un bâtiment dans lequel je vais consulter des ouvrages. Et je me dis, c'est pour ça que je suis. Je suis sensible à sa clarté, à son côté pratique. Et en fait, bah, finalement, si je ne regarde pas l'architecture, c'est peut-être parce que ça me convient très bien. Hein.
Je sais pas, honnêtement. Honnêtement, non, je passe pas, je viens juste pour travailler, je regarde pas forcément l'architecture. Voilà.
Et est-ce que tu trouves ça adapté justement pour ce que tu viens y faire, donc c'est-à-dire faire tes devoirs, travailler, préparer tes examens, etc.
Oui. Ouais. Oui, parce que par rapport, je retrouve vraiment l'aspect du médiathèque. On a beaucoup d'informations à disposition par des CD, beaucoup de manuels, un espace de travail au deuxième étage qui est vraiment réservé au travail. Et il y a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler. Et c'est vraiment un endroit que j'affectionne pour travailler.
Ah bah je trouve qu'il est vraiment, innovant. Donc moi j'ai cru qu'il avait que quelques années et on m'a expliqué qu'il a déjà 20 ans, la médiathèque. Alors que moi je croyais qu'elle avait même pas 5-6 ans. Donc ouais, c'est vrai que c'est vraiment magnifique et bien fait.
Ah, il est magnifique, à la fois très très beau et en plus c'est un lieu très fonctionnel pour les gens qui fréquentent la médiathèque, mais je pense aussi pour le personnel qui y travaille, je me suis laissé dire.
Voilà, c'était les usagers de la médiathèque qui répondaient aux questions de Monsieur Pignon. Paul Chemetov, je vous voyais très attentif à la vie des usagers. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ce qui s'est dit ?
Non. Fait dit, voilà. Et si vous voulez, il faut écouter ce qui se dit.
C'est important pour vous d'avoir des retours, justement, des usagers. Ça fait partie de l'après-construction.
Oui, c'est de toute façon... quoi que vous pensiez, il faut écouter parce que, sauf quand c'est uniquement inspiré par la malveillance, ce qui n'était pas le cas des extraits que vous avez passés, c'est pour ces voix que vous travaillez, ces voix inconnues, donc il vaut mieux les écouter. Et écouter, c'est pas forcément oui, monsieur, dame, oui, bien entendu, et vous voulez encore une tranche de pain et trois livres de beurre. Non, c'est pas ça, écouter. Écouter, c'est savoir dans quel climat on travaille. Dans ce climat, il faut faire des choix. C'est-à-dire, la difficulté de l'architecture, c'est que elle est toujours un choix. Vous ne pouvez pas avoir toutes les solutions en même temps. Votre choix, c'est le meilleur ou le moins mauvais. Je pense que c'est plutôt le moins mauvais. Je ne crois pas au choix meilleur, parce qu'il est trop exterminateur. Mais il faut écouter ce qui se dit et ce que les gens attendent ou ne pas attendent. Et ne pas... je suis contre les architectures intimidantes. Et au fond... même la personne qui commence et qui dit « au fond, moi, je m'en fous », l'architecture, c'est quoi ? En tout cas, les vitres, c'est bien pour lire les livres, voilà. Eh bien, il répond à une des conditions d'une bibliothèque, c'est la lumière du jour, la clarté. C'est quand même fondamental. Vous n'allez pas lire sous une ampoule halogène ou à la lumière de votre portable.
Une des réactions aussi, ça a été une jeune fille qui disait j'ai cru que ça avait été construit il y a 5 ans maximum. Oui, c'est aussi ça l'enjeu construction.
C'est le plus beau des compliments, si vous voulez. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, pour ne pas se démoder, il vaut mieux pas trop à la mode. Et c'est vrai qu'au départ, quand vous n'êtes pas trop à la mode, vous pouvez choquer parce que vous êtes moins séducteur. Mais... c'est comme dans tout, vous êtes Don Juan mille traits ou vous êtes un coureur de fond. Soit que l'architecte, il est plutôt un coureur de fond, si on parle de courir.
Sur la construction de la médiathèque d'Evreux, il y a eu des choix de matériaux évidents comme le bois, l'acier, le verre, qui sont les matériaux prédominants, enfin ceux qu'on remarque le plus facilement. Vous disiez il y a un instant que la construction ne doit pas être impressionnante. Est-ce que utiliser des matériaux, j'ai envie de dire, qui ne sont pas spécialement nobles, comme le béton, le bois et le verre, c'est aussi un choix. Est-ce que ce choix-là est très important et comment il se fait?
Mais je vais prendre au risque de décevoir mes proches qui me reprochent toujours mes comparaisons culinaires. C'est comme en cuisine. Il ne faut pas trop mettre trop de poivre, trop de sel, trop de sauce. Ce qu'il y a de plus difficile à faire, c'est des pommes de terre vapeur. Pour qu'elles soient parfaites, d'abord, il faut bien les choisir d'une bonne variété. Il faut bien les cuire. Il ne faut pas en faire de la bouillie. Et qu'est-ce qui est le mieux? Un filet d'huile d'olive ou quoi? Ou une pincée d'épices. Voilà, c'est un peu le problème de l'architecture. Il faut prendre les matériaux apparemment les plus ordinaires et en faire quelque chose qui vous fait plaisir à voir, à être, à toucher.
Il y a un enjeu également, c'est qu'un bâtiment va vivre, je ne sais pas pour combien de temps est conçu celui-là, mais au moins pour un siècle.
S'il est entretenu, il va tenir un siècle.
Ce qui va s'y passer dedans va évoluer.
Ah,
on
oui.
n'est pas aujourd'hui une médiathèque d'il y a 20 ans
pour
l'histoire d'Evreux, mais dans 20 ans, ce ne sera encore moins la médiathèque d'il y a 40 ans. Est-ce que c'est important à intégrer l'évolution du bâtiment dans la construction et comment la prendre en compte vu qu'on part vers l'inconnu?
95% de l'inconnu est connu. Si vous voulez. Faut pas. Dans les bandes dessinées des années 50, Spirou ou compagnie, vous voyez des fusées roses dans le ciel des villes pour l'an 2000. Vers l'an 2000, je n'ai pas vu trop de fusées roses dans le ciel des villes. Donc, on peut, quand vous faites des expériences de laboratoire, vous pouvez être dans l'inconnu total. Mais là, on n'est pas dans un laboratoire. On est dans une société humaine, avec ses codes, ses habitus, ses réflexes culturels, ses routines culturelles aussi, ou sociales, posées simplement. Vous êtes dans une ville dont la plupart des bâtiments sont déjà construits, et dont le temps de renouvellement est assez long. Donc, le problème, c'est d'avoir la tête suffisamment historique pour s'installer dans cette durée. C'est-à-dire, je ne sais pas, je crois que c'est l'architecte de la Bibliothèque de France, Dominique Perrault. Il me disait un jour, comme ça, moi je ne fais pas de monument historique. Et alors je lui répondais, c'est dommage que tu ne le saches pas. Parce qu'il faisait, qu'il le veuille ou non, un monument historique. Le premier jour, ne serait-ce que par l'intention de la commande, il est bien certain que le président François Mitterrand, c'était son projet phare, c'était son tombeau. Comme les Mahajans indiens faisaient de leur vivant construire leur tombeau. C'était le tombeau, parce que c'était un homme de culture, de livre, le tombeau que de son vivant il s'érigeait. Du reste, elle a porté son nom après sa mort. Et bizarrement, j'avais écrit, un an avant sa mort, un article qui disait « Cette bibliothèque s'appellera François Mitterrand » parce que c'est évident que c'est l'œuvre de sa vie, c'est là où il aimerait être embaumé au paradis. Mais pour revenir sur ce qui est inconnu, parce que c'était quand même votre première question, oui. Il ne faut surtout pas muséifier ce bâtiment. Si vous voulez, j'ai vu, dans un texte du journal La Dépêche d'Evreux, à une question d'un journaliste, je dis, certes, on passe son temps à entretenir les corps, à faire des greffes, à changer de vêtements, de nourriture et tout, mais il ne faut pas greffer une quatrième jambe à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Et ce bâtiment doit bouger, doit évoluer. Comment? Alors, il faut que les gens qui le fassent évoluer, les prescripteurs et ceux qui le racontent, les architectes donc, ceux qui le construisent, les entrepreneurs, sache que comment se servir de ce qui est. Enfin, est-ce que vous allez. La grande cuisine, c'est aussi de savoir se servir des restes.
Je prends toujours des comparaisons. C'est comment réinventer un existant.
Oui, comment continuer, comment se passer le témoin, et pas aller contre, mais aller avec, être bienveillant avec ce qu'on vous donne, mais en le transformant, bien entendu. Et c'est, de toute façon, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le métier architectural, c'est d'intervenir sur des bâtiments existants. C'est-à-dire, pour ne rien perdre du bâtiment ancien, mais montrer ce qui arrive. Il ne s'agit pas de dire « Ah, moi, je fais strictement comme on a fait en 95 ». Non, c'est pas la question. De toute façon, aujourd'hui, on est infoutu de refaire, même dans ces 20 ans, techniquement, on est infoutu de refaire une partie des choses qui sont là.
C'est lié à quoi, du coup
Si vous voulez, une évolution de la structure des entreprises, à peut-être une déqualification qui va de pair de certains ouvriers, des artisans du bâtiment. Quand vous êtes sur un chantier aujourd'hui, vous voyez des tas d'intermittents, pas du spectacle, mais des pauvres malheureux. Il y a des chantiers où vous avez des sous-traitants au 3e, 4e degré, et le dernier, c'est un malgache qui ne comprend pas son chef polonais, qui ne sait pas lire des plans français. Enfin, j'en rajoute, si vous voulez. Mais il est certain que le monde du bâtiment est un sas d'entrée de tas de gens sur le marché du travail français et sur la vie française. Parce que c'est un métier extrêmement rude. Extrêmement rude. Vous travaillez en plein air. Oui. Vous travaillez, c'est pas une usine.
Des conditions qui ne sont pas forcément évidentes, puis sur des chantiers qui demandent quand même de mettre un peu de sueur.
Qu'on le veuille ou non, il y a un certain nombre de personnes qui décèdent sur le chantier. Je sais pas. Alors, vous avez des chantiers. Quand vous allez sur les chantiers maintenant, vous avez un petit panneau à l'entrée, tant de jours sans accident. Et alors, quand le chantier s'est terminé tout entier sans accident, les grandes entreprises distribuent des rubans, des récompenses, des médailles aux gens qui ont su ne pas avoir d'accident sur un chantier. Mais c'est dans ce métier-là, c'est comme cela qu'il faut opérer. Et c'est comme ça qu'il faut continuer. Mais du coup, je regardais, c'est de la serrurerie. Aujourd'hui, vous voyez ces boulons en acier inoxydable. On vous expliquerait que c'est compliqué et qu'on vaut mieux souder, ça va plus vite. Et c'est moins cher, surtout.
Mais c'est ça, c'est aussi une contrainte qu'a l'architecte aussi de fonctionner avec un budget, j'imagine. Ça doit être une des contraintes principales.
À moins que vous soyez un très grand architecte et que vous devenez grand uniquement parce que vous explosez les budgets. Mais moi, je viens d'une famille modeste où on ne dépensait pas trop d'argent et au fond, notre excellence n'était pas dans la dépense d'argent, était plutôt, je ne sais pas, dans la lecture, la culture, voilà, dans autre chose.
J'ai une dernière petite question, parce que le temps avance forcément, je vous aurais bien gardé 2 heures avec nous, c'est très intéressant l'échange que nous avons, mais j'avais une dernière question qui était celle du mobilier. Dans les échanges préparatoires à notre échange à nous, on m'a dit qu'il y avait une partie du mobilier qui avait été pensée. Quand on pense architecture, on pense plutôt bâtiment extérieur, fonctionnalité, et pas forcément au mobilier qui va avec. On me confiait que vous aviez eu aussi un regard sur une partie du mobilier qui devait rentrer dans l'œuvre à la fin, pas dans l'œuvre et dans le bâtiment.
Comme une bibliothèque, c'est aussi des rayonnages, des tables, des chaises. Il vaut mieux que ces rayonnages, ces tables et des chaises aillent avec le bâtiment. Alors, l'avantage des tables et des chaises et des rayonnages, quelquefois, c'est qu'on les trouve chez des marchands de tables, de chaises. Mais le choix, un modèle plutôt qu'un autre, c'est pas le même. Et vous pouvez très bien prendre un article de série et le perfectionner un peu. C'est ce qu'on fait très généralement avec les rayonnages. Vous partez de... Il y a un certain nombre de grands fabricants de rayonnages. Vous dites, et j'aimerais telle tablette pour qu'on voit clair. J'aimerais telle indication, j'aimerais tel allumage. J'aimerais une prise pour un ordinateur, une tablette pour le poser. Et comme ces gens, leur métier, c'est quand même de vendre leurs produits, ils vous écoutent avec bienveillance. On a eu ce rôle, et chaque fois que je le peux, je demande à avoir la mission de meublement, qu'elle soit totalement dessinée. Avant, il y avait une banque d'accueil qui était dessinée, une autre est arrivée. Mais ou qu'elle soit simplement la préconisation de tomber les espèces de fauteuils pouf en cuir. On les a trouvés dans un catalogue finlandais. C'était étonnamment bon marché, si vous voulez. On n'allait pas réinventer ce fauteuil, puisqu'il existait. Mais je m'aperçois que, si vous voulez, le propre du mobilier, c'est que c'est une façon dans la sphère de l'intime comme dans la sphère publique, de contrôler son environnement. Quand, pour dire que je suis là, si vous voulez, c'est comme... faut déposer des meubles autour de soi. Moi, je... faut laisser sa trace par des meubles. Et j'ai vu la trace de tas de passages de gens qui ne sont peut-être plus là, mais qui ont laissé leurs meubles après leur départ. Et je pense qu'un grand inventaire mérite d'être fait, parce que certains de ces meubles sont fort bien. Peut-être qu'il faut les regrouper autrement. Dans le mot meuble, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est mobile. Donc, il faut rendre les meubles mobiles.
Très bien. Ben, merci beaucoup à vous, Paul Chemetov, d'être passé par nos micros. Merci à vous également, Dominique Chelot, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle, vous êtes la conservatrice de cette médiathèque. Monsieur Pignon, je vous propose une pause musicale et nous revenons juste après.
Of all the boys. Of all the boys, boys. Of all the boys, 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 boys. Of all the boys. Of all the boys I've known and I've known some. First met you was lonesome. Came inside of my heart, grew like the world was new to me. You're swell, I'll admit you deserve expressions that fit you. Rack my brain hoping to explain things you do to me. By mere bestie shame. Please let me explain. By mere bis du shame means that you're grand. By mere bis du shame, gun and a game means you're the fairest in the land. I could say bella bella, even say wunderbar. Each language I'm leak out to show how wonderful you are. I try to explain. By mere bis du shame, so kiss me, so you'll understand. Thank you.
c'était une nouvelle pause musicale proposée par le personnel de la médiathèque. Frédéric, c'est vous qui avez programmé. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce choix ?
C'est moi-même, oui. Alors là, vous venez d'écouter les Hot Sardines. C'est un groupe franco-américain, donc emmené par la chanteuse Elisabeth Bougerolles, avec tout un orchestre, un band donc originaire de New York. Et c'est un premier album sorti il y a quelques mois, c'est sorti en fin d'année 2014. Et le nom de leur groupe fait référence en fait aux Hot Five, en fait les musiciens de Louis Armstrong. Donc il y a une sonorité rétro jazz très années 20, années 30, années 40, entre deux guerres quoi.
Très bien, bah, j'imagine que ce disque est disponible dans les bacs de la médiathèque.
Tout à fait, ça fait partie des dernières acquisitions de la médiathèque, tout à fait.
Merci Frédéric.
Merci à vous.
Vous êtes bien sûr Principe Actif, 102.4 FM.
Nous poursuivons ce direct de la médiathèque d'Évreux à l'occasion des 20 ans de cette médiathèque, mais aussi des journées européennes du patrimoine. Nous recevons Muriel Bloch, bonjour à vous. Alors vous êtes conteuse, vous avez de longues années de conte à votre actif, vous avez publié une trentaine d'ouvrages principalement autour du conte, et en me promenant sur votre site, j'ai vu qu'il était stipulé de manière très évidente que vous faisiez des contes pour tout âge. On aurait tendance peut-être à penser que le conte c'est pour les enfants et a priori vous l'abordez pour tout âge. Qu'est-ce que ça veut dire le conte pour tout âge ?
On vit dans une société qui n'arrête pas de compartimenter et moi je ne sais pas pour quel âge je raconte. C'est-à-dire que traditionnellement, moi je ne viens pas du monde traditionnel, mais on racontait dans ce qu'on appelait des veillées, et puis tout le monde était là, les bébés et les vieillards, et puis on racontait des histoires pour les plus petits, qui étaient des histoires bien évidemment courtes, mais qui étaient fortes, qui disaient le monde, pour que les petits apprennent à se repérer, qui fait quoi ? Un bâton, ça peut être brûlé par le feu ça peut être éteint par l'eau, vous voyez ? Bon, des éléments de compréhension du monde. Et puis après, quand les veillées duraient, je sais pas, il y avait comme un bon menu, je pense qu'on passait aux choses sérieuses, je sais pas, plus tard, ou en tout cas tout le monde était rassemblé. Et je constate qu'avec les contes, moi je m'adresse à tout le monde, alors chacun prend à son niveau, mais je me pose pas la question de la tranche d'âge. Bon, je sais que évidemment il y a des contes que les tout-petits ne peuvent pas bien saisir, il y a une question de durée, etc., mais je refuse de sélectionner, et j'aime raconter aux petits et aux grands, mais j'aime surtout quand ils sont ensemble et que les petits partagent l'écoute avec les plus grands.
C'est cette notion du conte aussi qui a eu une autre importance à une époque, peut-être il n'y avait pas la radio, la télé, enfin tous ces médias modernes, et qui faisait en fait le lien social également sur les veillées, comme vous l'évoquiez, qui faisait aussi l'apprentissage de certaines choses à travers le conte. Aujourd'hui, dans cette société moderne, peut-être que le conte a pris une autre place, ou vous êtes toujours dans cette dynamique de conte comme une espèce de passage de message ou de relais.
Vous voulez dire que je serais has-been, c'est ça, ou que le conte n'aurait pas sa place ?
Pas du tout, je veux pas dire ça, mais il y a quand même une évolution de la place du conte, notamment par tous les médias que nous avons.
J'écoutais parler M. Chemetov, c'est exactement la même chose. Le conte en tant que matériau, ça se transforme tout le temps. C'est une courroie de transmission, de savoir. Et c'est important, dans ce que disent les contes, de parler d'un monde qui n'est plus parfois. Il y a des enfants, ils n'ont jamais vu de vache, ils ne savent même pas le bruit que ça fait. Enfin, j'exagère un peu, mais pas tellement. Et des métiers dont ils n'ont plus aucune idée, je vois par exemple le mot tailleur, enfin le métier du tailleur, s'asseoir en tailleur. Quand on dit à des enfants de s'asseoir en tailleur, ils ne savent pas pourquoi. En fait, c'était les tailleurs qui, pour couper, avaient cette position. Et j'ai un des contes que les enfants aiment bien, que je raconte, le grand-père, il est tailleur. Et dans 50% des cas, les enfants ne savent plus ce que c'est qu'un tailleur. Parce qu'on va acheter les vêtements tout faits, c'est bon, allez. Voilà, c'est encore les vêtements à la taille, on garde l'étiquette et on achète. Alors, le conte permet de donner ces savoirs qui tentent à disparaître, mais pas pour un monde perdu, c'est tout se transforme. Et la place du conteur, je crois aujourd'hui, c'est vraiment comme une chambre d'écho. C'est-à-dire qu'on a besoin des conteurs pour dire le monde, pour rappeler d'où on vient. On se pose des questions du climat en ce moment. Ça serait bien de rappeler les grands mythes de l'humanité, comment ça s'est formé tout ça, et comment ça se casse, comment ça se pollue, comment on va vers, je ne sais pas, un grand chaos, un grand déluge. Mais ça, c'est déjà dans les histoires. Donc c'est une mémoire, voilà. C'est pour ça que cette mémoire, il faut la transmettre comme on peut, et plutôt de façon vivante. C'est-à-dire que moi, je ne parle pas du bon vieux temps. Je ne sais pas ce que c'est, le bon vieux temps. Vous voyez, je n'ai pas de sabots. Je ne parle pas de... Enfin, je n'ai pas l'impression, à travers les contes, même si ce sont toujours des histoires passées, d'être dans le passé. Je crois que vraiment, c'est être aujourd'hui, mais au moyen d'histoires du passé, réveiller à la fois une mémoire et puis aussi ouvrir l'imaginaire. La dimension de l'imaginaire, elle est très importante.
C'est être entre la tradition et puis l'instant presque. Finalement,
vous savez, la tradition, c'est d'innover, hein, tout le temps. Dans les pays d'Afrique du Nord, on dit ce qu'on reçoit de la taille d'une main, il faut le rendre de la taille du bras. C'est ça, la tradition. Donc, la tradition, ça ne veut pas dire conserver quelque chose. C'est au contraire faire évoluer les choses.
La transmettre. Vous évoquiez juste à l'instant l'imaginaire. J'imagine que c'est essentiel dans votre façon d'aborder les histoires et de conter les histoires, de faire appel à l'imaginaire de chacun. J'imagine que vous venez chercher le petit truc chez chacun, non ? Enfin, comment ça ?
Alors, c'est pas un petit truc. C'est-à-dire que il y a une sorte de déformation. Quand on entend le mot conte, très souvent on ajoute conte de fées. Bon. Et on pense imaginaire, nuage rose, ou je ne sais pas, cette idée d'un monde qui n'est pas réel. En réalité, l'imaginaire d'un conte est toujours très concret. C'est-à-dire qu'on est dans une culture, donc on transmet cette culture. Et transmettre cette culture, c'est à la fois faire voyager les gens dans un ailleurs, mais avec des choses très très sensibles que sont le symbole, que sont des manières de vivre et des manières de se comporter aussi. Vous racontez pas de la même façon un conte des pays du Grand Nord où il y a les rennes. Le mobilier d'ici, c'est la peau de renne. Donc je me souviens que quand j'étais venue il y a 20 ans pour l'inauguration de la médiathèque, j'avais été fascinée par ces sièges, ce mobilier justement qu'évoquait Chemetov, c'est-à-dire cette peau de renne. Et à ce moment-là, je m'intéressais aux contes chamaniques du Grand Nord. Et donc, j'avais raconté des contes avec des rennes qui tombaient amoureux et qui se transformaient. Bon, l'idée, c'est d'être fidèle à l'imaginaire des peuples à travers les contes, tout en y ajoutant le sien, parce que moi, je ne suis jamais allée là-bas, tout là-bas, où les reines font des choses incroyables. Mais je raconte à travers ce que moi, je ressens de la vie du renne sur les terres finlandaises, où je n'ai jamais mis les pieds.
À travers les contes, on s'informe aussi sur le monde de manière détournée, non pas détournée, mais de manière, j'allais dire indirecte, mais pas indirecte non plus,
non,
finalement.
Non, c'est un documentaire.
Il y a une notion d'information sur le monde à travers le conte.
Absolument, moi j'y tiens beaucoup, ouais.
Et souvent on retrouve, et notamment on les retrouve d'ailleurs à l'étage inférieur là dans les rayons livres pour enfants, voilà, contes d'Asie, contes d'Afrique.
Mais on les trouve chez les adultes aussi, les contes d'Asie, d'Afrique, c'est-à-dire que ça concerne tout le monde. Et d'ailleurs dans les livres, enfin des publications, il y a beaucoup de publications pour adultes, parce que ce sont les adultes qui transmettent aux enfants, donc il faut leur donner le goût des contes à eux aussi.
Il y a justement une façon de raconter des contes, parce que souvent, c'est les parents qui se trouvent aussi en situation au quotidien de raconter des histoires.
De les lire.
Mais lire, ce n'est pas compter. Et du coup, quelles sont un petit peu les ficelles, si vous voulez bien les dévoiler, hein.
Qu'est-ce qui fait qu'on
passe de raconter une histoire à vivre un conte? Parce que finalement, voilà, il y a raconter une histoire et vivre un conte.
Bah, c'est-à-dire que dans la lecture, on a affaire à un texte. Et quand on raconte, on a affaire à une histoire. Dans les livres, le texte, il est décrit, et c'est une histoire écrite. Quand on raconte, ça passe par le corps de celui qui raconte, donc la vie que vous évoquez, elle est là. Dans les livres, ils dorment, les contes, à mon avis, parce que c'est pas toujours agréable à lire. C'est mieux parfois de lire un roman, ou un peu comme une pièce de théâtre. Moi, je peux pas lire du théâtre. Il faut que j'aille voir faut que je sente les acteurs, j'écoute les voix. Bon. Et le conte, c'est un peu ça aussi. Maintenant, j'écris des livres de contes parce que j'ai envie d'en conserver la trace. Comme...
Et puis la transmission également.
Voilà.
Que certains, peut-être...
Et puis c'est dans les bouquins que j'ai trouvé les contes. J'ai pas, moi, eu un grand-père. Ou... Non, j'ai pillé les ethnologues, j'ai pillé tous les bouquins que j'ai pu avoir. Donc, c'est une transmission où on ne cesse de re-raconter. Mais les ficelles dont vous parlez, c'est juste de choisir une histoire qu'on aime, d'avoir quelque chose à dire à travers l'histoire qu'on... Et puis d'y aller. Avec ses mots, avec son corps, chacun raconte à sa façon. Mais du moment qu'on est impliqué, qu'on se mouille dans ce qu'on dit, c'est ça la vérité du conte, je crois.
Vous dites vivre le conte avec son corps, le conter avec son corps, pardon, je vais rectifier mon vocabulaire, conter avec son corps. Vous avez aussi eu l'expérience de conter avec des danseurs, avec de la musique, des choses comme ça. Est-ce qu'on est... Voilà, dans une forme plus large et plus spectacle peut-être du conte à travers ces... Et puis qu'est-ce qu'on touche en y ajoutant des éléments?
Alors, de tout temps, les conteurs, enfin des haut-parleurs, hein, comme disent les Québécois, étaient des artistes complets. C'est-à-dire qu'ils étaient aussi musiciens et qu'ils étaient aussi danseurs, chanteurs et qu'ils étaient une mémoire. Enfin, ça, ce sont surtout les griots qui sont les archivistes et les gens de mémoire. Mais les conteurs, qui étaient là aussi pour distraire, ils avaient toutes ces cordes à leur arc. Moi, je n'ai pas reçu tout ça de formation. Hein. Je me suis devenue conteuse sur le tas, par accident, par hasard, par passion. Mais je ne suis pas musicienne moi-même. Je chante pas bien, voilà, je bouge pas terriblement bien, bon, mais j'ai les mots, j'aime inventer, j'aime transmettre, bon, et j'adore travailler avec d'autres artistes et notamment des musiciens, parce que le conte, c'est une musique, c'est du chant à l'origine. Donc quand je suis avec des musiciens, et ce soir je serai avec un musicien qui est un très grand guitariste de la Guinée-Bissau qui s'appelle João Mota, j'aime beaucoup travailler avec lui parce que la voix se passe place pas de la même façon, qu'il installe un rythme que moi je suis ou que lui me suit, mais du coup on donne au conte, je crois, toute sa palette, c'est-à-dire la musique, la voix qui parle et qui avec la musique change, et voilà, donc c'est un plaisir complet. Quand je travaille avec une danseuse qui s'appelle Sachi Noro, j'aime parce que elle crée un espace imaginaire avec son corps et elle répond aux mots de l'histoire. C'est-à-dire que, parce que les conteurs, on est tout seul. Donc on raconte toujours à quelqu'un. Donc l'avantage de travailler avec d'autres, c'est qu'ils sont le premier public. Donc on prépare ensemble. Et du coup, on a deux publics. Celui qui est avec vous sur scène, face à l'auditoire. Et puis l'auditoire. Donc c'est deux rencontres. Et ça, c'est un plus, je trouve.
Vous parliez de rencontres également, vous aimiez jouer avec les mots. Dans le conte, il y a aussi l'émotion avant toute chose. Enfin, peut-être pas avant toute chose, mais en tout cas, l'émotion est énorme. Le but du jeu, c'est de susciter, j'imagine, des émotions auprès de l'auditoire.
Oui, c'est pas un but en soi. Elles sont là, les émotions. Parce que les contes, c'est des récits très simples qui nous parlent de nous. Et qui parlent quoi? De la vie, de l'amour, de la mort. Qui disent que c'est compliqué d'aimer, c'est compliqué d'élever des enfants, que la vie c'est dangereux, que de toute façon on se trompe, qu'on ne réussit pas tout seul, donc il faut rencontrer quelqu'un qui vous donne un coup de main, sinon on ne réussit pas. Puis en général on ne réussit pas du premier coup, alors les contes qui sont des récits populaires essaient de donner du courage aux gens les plus humbles qui avaient du mal dans l'existence, puisque c'est des histoires souvent racontées... Pour donner une force de vie, pour donner de l'espoir et pour montrer qu'on peut s'en sortir. Et pour moi, c'est important aujourd'hui que ces récits soient porteurs d'envie de montrer que des gens qui sont mal partis dans l'existence, qui n'ont rien pour eux, qui sont moches, qui n'ont pas de sous, qui ne comprennent rien à rien, eh ben, ça va s'arranger. Il y a des petites lumières possibles, il y a des rencontres déterminantes. Simplement, il faut garder les yeux ouverts, il faut dire « Ok, oui, je suis paumée, est-ce que quelqu'un peut m'aider ?» Ça, c'est un grand message des contes, d'accepter d'être aidé. Alors l'émotion, elle naît de tout ça, parce qu'il y a la peur qui est formidable, qui est indispensable. C'est pour ça que les contes sont des histoires fortes, qui font peur, qui font rire. Je pense que toutes les émotions sont au rendez-vous, mais toute forme artistique provoque des émotions, la peinture, l'architecture... La danse, enfin, l'art est émotion. Donc le conte, oui, il s'inscrit dans cette dimension artistique. Donc oui, émotion.
Vous étiez, Muriel Bloch, à l'inauguration de cette médiathèque il y a 20 ans. J'imagine que vous avez dû retourner voir en bas, notamment, vous avez inauguré notamment la bulle, l'espace enfant.
Ouais.
J'imagine que vous avez dû déjà aller vous promener, voir un petit peu cette médiathèque. Quelles sont vos impressions 20 ans après d'avoir vu un ouvrage qui sortait de terre et qui aujourd'hui a vécu 20 années et qui est toujours, comme le soulignait un petit peu tout le monde, toujours dans son temps?
Oui, moi je ne me suis pas posé ces questions-là, c'est-à-dire que de façon très anecdotique, quand ça a été inauguré, le souvenir que j'ai dans le train, puisque j'habite à Paris, c'était Monseigneur Gaillot qui revenait en héros victorieux dans la ville d'Évreux, et il y avait une ambiance dans le train géniale. Et quand je suis arrivée à la médiathèque, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et évidemment, on m'a désigné la bulle pour aller y raconter. Et au fond, j'aime pas qu'on m'enferme dans les espaces. Et j'aime pas que les architectes décident des lieux pour raconter. J'ai l'impression qu'on peut raconter partout. Et très souvent, dans les médiathèques, les bulles réservées à cette institution un peu moribonde, dite d'heure du conte, comme ça, qui... Bon, fait qu'il n'y a pas d'air, il y a pas. Or là, le souvenir que j'en avais, c'est qu'il y avait des gens tout autour, donc la bulle, au fond, elle n'était pas fermée, mais elle était ouverte. C'était une bulle éclatée, en quelque sorte. Et ça m'a plu. Je me souviens qu'il y avait accroché, je ne sais pas pourquoi, je me souviens de lune, de soleil, tout comme ça. Donc tout à l'heure, quand j'y suis retournée pour raconter, eh ben, en souvenir de cette inauguration, j'ai raconté pourquoi le soleil est resté célibataire. C'est un conte éthiologique qui vient des Balkans et que je ne connaissais pas à l'époque. Et je trouve qu'elle n'a pas tellement changé. Enfin, moi, j'en vois pas les... Elle est lumineuse. Je trouve que le béton, le bois, le verre, tout ça, ça marche bien ensemble. Bon, il fait beau, la lumière entre. Moi, c'est fondamental, la lumière. Et là, elle est partout. Et puis, on y voit du monde. Non, je trouve qu'elle est... Et puis, je vais souvent dans les médiathèques et il y en a des catastrophiques. Donc, celle-là, je trouve qu'elle est vraiment
réussie. Elle est
plutôt
réussie.
Pas mal, alors. Elle est plutôt réussie, ouais. Ouais, mmh.
Ouais. Du coup, oui, c'est assez rigolo comme anecdote, voilà, de se rappeler qu'il y avait sur les murs, il y a 20 ans, des lunes, des soleils.
Ouais,
et puis,
si
choisir
ouais.
Le conte aujourd'hui en lien. Voilà,
oui, c'est ça. C'est le petit passage... et puis l'idée qui m'a été soufflée, enfin qu'on m'a imposée, mais avec grand plaisir, c'est justement de ne pas être dans un lieu fermé de la bibliothèque, mais de raconter là où c'est pas prévu. Et ça, c'est pas mal non plus.
C'est peut-être mieux d'ailleurs que ce ne soit pas forcément formalisé sur le lieu ou pas forcément. Parce que y a la côté. Dans ce que vous dites, j'entends le conte finalement ça va partout. Il n'y a pas à formaliser le lieu plus que ça.
Non, on a besoin quand même d'une qualité d'écoute. Donc trouver un endroit où on ne gêne pas et où on n'est pas gêné. Et donc c'est pour ça qu'il y a des espaces réservés à certaines activités. Et ça, je le comprends complètement. Ce matin, c'était à l'heure du marché. Donc il y a une petite dame avec son panier. On l'a alpagué. Elle a dit bon, j'ai pas beaucoup de temps, mais avant d'aller au marché, d'accord. Elle était là-haut dans le couloir. On a trouvé une famille avec des enfants, et du coup, tout ce petit groupe là, comme ça, on s'est retrouvé à un endroit un peu et c'était chouette comme ça. Moi, je me suis assise sur une table, et puis on s'est rencontrés.
Très bien, bah, merci beaucoup, Muriel Bloch, d'être passée par nos micros. Monsieur Pignon, je vous propose de repartir en musique et peut-être même un choix de Laurent, ce qui pourrait être pas mal.
Al fellig fekere kancinela, indomela.
C'était la troisième pause musicale préparée par le personnel de la médiathèque. Laurent, ça c'est un de vos choix à vous.
Bonsoir, oui. Un choix sans hésiter, il s'agit de Mahmoud Ahmed et Remela Mela. Il y a une ambiance de transe hypnotique dans ce morceau et je l'ai choisi pour un certain nombre de raisons. Évidemment parce que je l'aime beaucoup, apparemment je ne suis pas le seul sur le plateau, et aussi parce qu'il a un rapport indirect un peu avec Évreux, avec l'histoire d'Évreux. C'est bien qu'on parle d'Évreux de manière positive, comme le disait tout à l'heure Muriel. On parle évidemment, il y avait les concerts, la bibliothèque, on parlait de Gaillot, Monseigneur Gaillot tout à l'heure. Donc Mahmoud Ahmed, il a un rapport avec Évreux donc très indirect, puisque le musicographe qui a exhumé les trésors cachés de la musique éthiopienne dans les années 70, qui était anciennement directeur du Confort Moderne, donc un avant-gardiste aussi un peu comme la médiathèque, quelqu'un qui était en avance sur son temps et a permis justement, en dirigeant la collection éthiopique chez Bouddha Musique, de faire connaître tous ces artistes. Mahmoud Ahmed qu'on vient d'écouter justement, c'est un artiste qui fait toujours des tournées, qui joue encore il n'y a pas si longtemps que ça, et de les remettre dans le monde contemporain, quoi. Et ce mélange entre tradition éthiopienne et modernité, entre l'Afrique aussi et l'Occident, je le trouve vraiment irrésistible, quoi. Et puis ce petit rapport à Évreux, puisque Francis Falsetto habite dans le coin, il est venu plusieurs fois d'ailleurs, il nous a permis de programmer à la médiathèque, qui est aussi un lieu de vie et qui n'est pas seulement un endroit où on entrepose des collections, les disques ne sont pas des cadavres à l'horizontale, mais ils peuvent aussi générer la culture vivante. Je pense que l'avenir des médiathèques, et ça Paul Chemetov l'expliquait très bien tout à l'heure, et Dominique Chelot aussi, ce sera aussi de proposer sans doute de plus en plus des spectacles vivants et d'activer le présent à travers l'incertitude de la musique et des contes. Donc voilà, je trouve un artiste vraiment qui me touche, en tout cas Mahmoud Ahmed.
J'imagine que cet album est dans les rayons de la médiathèque.
Oui, dans plusieurs versions même.
Très bien. Merci, Laurent.
Merci à toi.
Eh bien, toujours dans
le monde. Le studio bouge avec Principe Actif.
Voilà, nous sommes toujours en direct de la médiathèque d'Évreux, où nous réalisons l'émission à double titre, au titre des 20 ans de cette médiathèque, et puis également autour des journées européennes du patrimoine, où vous pouvez bien entendu aller visiter tout le patrimoine qui est autour de chez vous, ou même un petit peu plus loin d'ailleurs, ce sont les journées européennes, n'hésitez pas. Je vous propose que nous écoutions un reportage tourné dans les rayons justement de l'espace musique de cette médiathèque.
Eh bien, toujours en lieu et place hein, de cet espace où on peut louer bon nombre de compacts disques, hein, parce qu'on dit CD maintenant, mais on dit compact disque aussi à l'origine. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors Sophie, vous, je vous vois déambuler dans les rayons. Est-ce que vous venez régulièrement avant tout, Sophie, dans cet espace ?
Oui, tout à fait. Je viens à peu près une fois par mois prendre ma dose de lecture, on va dire, pour le mois.
Et là, en l'occurrence, de musique aussi, alors peut-être ?
Et de musique.
D'accord.
Tout à fait.
Donc, ce sont les deux espaces que vous fréquentez dans la médiathèque principalement ?
Oui.
Alors, en musique, comment ça se passe ? Est-ce que vous venez de manière curieuse ou vous faites conseiller ? Est-ce que vous avez fait des recherches préalablement ? Est-ce que vous repérez des noms d'artistes que vous connaissez déjà ? Puis tiens, il y a une nouveauté. Comment vous fonctionnez ?
Alors, en général, j'écoute la radio. Quand il y a des titres qui m'intéressent, je recherche l'artiste. Donc je fais ma petite liste avant de venir. Et j'ai aussi le côté curieux quand je tombe sur un CD où la jaquette du CD me plaît. Je le prends et puis je découvre.
Il y a un genre musical plus qu'un autre ou vous êtes assez éclectique dans
éclectique. Ouais.
D'accord, dans les choix et dans les. Ouais, très bien. Est-ce que vous le trouvez plutôt bien fourni? Est-ce que c'est assez réactif avec les sorties? Parce qu'a priori, il y a quand même beaucoup de nouveautés, on voit apparaître.
Oui.
Après, bien sûr, il y a des gens qui peuvent être passés avant entre temps louer l'album en question, mais le rayon est assez fourni pour vous?
Ah oui, tout à fait. Oui, ça, c'est assez récent. C'est mis à jour régulièrement.
Est-ce qu'il y a un CD comme ça qui vous a marqué ces dernières semaines, ces derniers mois, que vous avez découvert ici ou vous avez récupéré?
J'ai découvert un CD de musique jamaïcaine.
D'accord. Qui n'est pas du reggae?
Non, de la musique jamaïcaine. Alors je ne saurais pas vous dire le titre du CD, mais.
Qui était très chouette.
Ouais, tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup, Sophie. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Voilà, et bien je suis en direct en fait de l'espace musique. Non, on est en plein cœur des rayons, on est parfait. On est en plein cœur des rayons et c'est justement là où je vais poser quelques questions à des pratiquants de cet espace. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Vous vous appelez comment s'il vous plaît?
Cédric.
Alors Cédric, vous êtes un hébroïcien vous de...
Je suis un hébroïcien tout à fait, ouais. J'habite à Évreux même.
Très bien. En fait, je vous vois dans un des rayons disques et je me permets de vous poser la question. C'est un lieu que vous fréquentez régulièrement?
Tout à fait, oui, je viens assez régulièrement pour voir un petit peu à la recherche des nouveautés, les nouvelles arrivées dans la médiathèque.
Donc ça veut dire que vous avez un œil attentif sur les nouvelles productions, les nouvelles sorties d'albums ou d'artistes?
Exactement, tout à fait.
Est-ce que c'est aussi un lieu où vous êtes curieux, où vous vous faites conseiller, ou est-ce que c'est parce que vous avez lu des rubriques dans des magazines spécialisés que vous orientez vos recherches?
Je suis pas contre un avis, mais bon, j'ai mes préférences quand même, malgré tout.
En l'occurrence, ce serait quoi?
C'est plutôt justement là où on est, c'est-à-dire le rock, rock pop, et voilà.
Vous êtes quelqu'un qui du coup va, donc je le disais, louer, emprunter des CD. Déjà, c'est la seule forme de source que vous prenez? Vous prenez des vinyles?
Je m'intéresse aussi énormément à la photo, donc je prends aussi des magazines liés à la photo pour essayer de me perfectionner un petit peu et prendre des cours directement par la littérature.
D'accord. Et alors vous me disiez pop rock, metal, musicalement, est-ce que des fois vous mettez un peu en péril et vous allez vers d'autres genres musicaux parce que
ça m'arrive. Je dérape un peu parfois, ouais, c'est vrai.
Et en l'occurrence, c'est plutôt anglais, français,
plutôt français.
Ouais. Alors, il y a un petit peu moins de sorties. Est-ce que on va repiocher aussi dans des classiques qu'on est peut-être passé à côté à l'époque? Est-ce que ça aussi,
c'est vrai. Un peu comment? Mélancolique vis-à-vis de mes années d'enfance, c'est-à-dire les années 80. Donc, il m'arrive parfois de retourner un peu vers ces années-là. Ouais.
Et la musique à la maison, c'est au casque? On en profite dans la salle?
Ayant une enfant, c'est souvent au casque pour la laisser se reposer, tout simplement. Quoi.
Eh bien, merci beaucoup et bonne recherche. Je ne vous embête pas davantage, merci à vous.
Merci.
Voilà, c'était les usagers sur l'espace musique au micro de Damien. Nous avons traîné nos micros dans cette médiathèque durant la journée à questionner un petit peu tout le monde. On a vraiment embêté de questions. On a été tous azimuts. Je vous propose qu'on écoute un extrait des échanges que nous avons eus dans l'espace enfant sur le premier sous-sol.
Donc en fait, je suis en direct de l'espace enfant, voilà, beaucoup plus ludique dans cette médiathèque. Et je suis en compagnie de Rachel, bonjour à vous.
Bonjour.
Alors Rachel, je me suis permis de vous interpeller parce que je vous ai vu en fait dans cet espace avec votre fils, l'un de vos deux fils a priori.
Oui.
Et vous étiez plus précisément dans le rayon des bandes dessinées. Est-ce que c'est un lieu que vous fréquentez régulièrement au-delà de l'aspect bande dessinée, la médiathèque?
On vient à peu près une semaine sur deux.
Ah oui, vous venez tous les 15 jours, donc deux fois par mois vous venez ici. Et principalement pour vos enfants ou vous venez aussi pour vous?
Je viens aussi pour moi, mais surtout pour les enfants.
Alors qu'est-ce que vous recherchez principalement? Là en l'occurrence des bandes dessinées. Est-ce que vous empruntez des jeux? Est-ce que vous venez des fois des lectures de contes? Vous l'utilisez comment cet espace?
Alors c'est surtout les BD pour les enfants, les jeux de société et parfois aussi des livres pour l'étude à l'école.
Ah oui, donc vous avez une pratique de cet espace complètement riche et adaptée un peu au milieu scolaire, mais pas que, parce que si vous venez chercher des livres et des bandes dessinées, c'est aussi pour le loisir. Est-ce que c'est un réel intérêt, même financièrement, puisqu'on imagine, n'en déplaise aux libraires spécialisés, qu'ici on peut louer à moindre coût, même gratuitement, si je ne m'abuse, quand on est de la commune. Vous êtes de la commune, vous, d'ailleurs, Rachel?
Non.
Non. Est-ce que c'est même financièrement, on s'y retrouve, parce qu'il y a une rotation, on peut vite emprunter, il a apprécié une BD, on passe à une autre, si on recherche une série, c'est ce que vous faites ici ?
Oui, parce que c'est vrai que les livres, ça coûte quand même assez cher. Et une fois qu'ils les ont lus, en général, c'est rare qu'ils les relisent une deuxième fois. Donc ça permet de varier. Et ils lisent beaucoup. Donc,
Et parfois, ça peut même être une source d'inspiration. On a toujours dans les amis, quand les enfants fêtent un anniversaire, qu'est-ce qu'on pourrait lui ramener ? Qu'est-ce qu'on pourrait lui ramener ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, de dire bah, écoute, il a découvert tel BD, il adore, est-ce que tu peux regarder si tu en as ? Est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, ou un jeu que vous aviez essayé ici, emprunté, qu'on vous a offert par la suite ?
Oui, ça permet aussi de découvrir, au lieu d'acheter et puis que ça ne nous plaise pas, au moins là, on peut tester avant, que ce soit les livres ou les jeux.
Eh bien, merci beaucoup, Rachel. Toi, mon grand, comment tu t'appelles ?
Léni,
tu me dis ? C'est ça ? Et toi, Léni, alors c'est cool de venir ici ?
Ouais.
Tu préfères les livres ou tu préfères les jeux, toi, avec ta maman ? Ou les deux, hein. Tu as le droit de me dire que t'aimes bien les deux. Tu te laisses porter les histoires. Est-ce que t'aimes bien que ta maman t'aide à les raconter ou tu t'aimes bien les feuilleter toi-même, les bandes dessinées par exemple ? T'es comment toi ?
Lire tout seul.
Lire tout seul ? Il y a des héros comme ça ou des personnages que tu adores ? Des cow-boys ou je sais pas, des super-héros ? Qu'est-ce que tu aimes bien toi ? Ou des policiers ou des espions ? Qu'est-ce que t'aimes bien comme genre ?
Les mangas.
Ouais. Bah c'est bien déjà, bravo. Donc les dessins un peu japonais, c'est ça que tu aimes bien ? Ouais, moi aussi j'aime bien, t'as raison. Eh ben je t'embête pas plus, je te souhaite de bien trouver des livres qui te plaisent, et puis je te souhaite une bonne journée. Au revoir.
Voilà les usagers de cet espace enfant qui répondaient aux questions de Damien. D'ailleurs, il va falloir qu'on aille le récupérer parce qu'il est resté hein, proche de cette bulle. Nous ne le laisserons pas à l'équipe de la médiathèque, nous le récupérons tout de même. Voilà, on avance, nous sommes toujours en direct de cette médiathèque, carrément là dans le lieu où nous voyons passer devant nous tous ces lecteurs, toutes ces lectrices, tous ces auditeurs, qui, pour ceux qui vont au rayon des CD, nous voyons passer devant nous. Nous sommes en direct de cette médiathèque d'Evreux, nous y serons également demain entre 16h et 17h30. Pour conclure cette émission, eh bien, nous ne pouvions pas ne pas laisser la parole à ceux qui y travaillent dans cette médiathèque. Et je vous propose d'écouter un reportage réalisé par Monsieur Pignon autour de bah c'est quoi pour vous de travailler dans la médiathèque ?
Bonjour, je vous embête deux petites secondes.
Oui,
pardon, non, je vous en prie. Travailler en médiathèque, pour vous, c'est quoi ?
C'est le contact avec le public. Et puis bah, l'amour du livre aussi. Hein. Pas que d'ailleurs, mais majoritairement le livre.
Alors, c'est découvrir, c'est faire découvrir, renseigner, être accessible au public, toujours disponible, voilà.
Très bien.
Et puis, représenter le monde culturel un petit peu. Hein.
Le plaisir d'être parmi les livres, de pouvoir avoir accès à plein de choses culturelles. Voilà, pour moi, c'est surtout ça.
Alors, c'est la disponibilité au plus proche du public. C'est un rôle de médiation dans un esprit culturel sur l'actualité, sur la localité, mais pas seulement, sur tout ce qu'il se fait, sur un maximum de supports, sur un maximum d'art. Et c'est la proximité du public.
Pourquoi t'es venu faire ton stage ici ?
Parce que je devais être faire un stage auprès des personnes, différents publics, et puis voilà.
Ok, je pense ça.
Et ben c'était une très bonne idée, hein, de toute façon. Eh bien, c'est ainsi que s'achève notre premier volet en direct de la médiathèque d'Evreux. Nous aurons eu l'occasion, durant cette émission, de rencontrer les usagers, le personnel, notamment Catherine Lelory, responsable notamment de l'Artothèque et puis des livres. Nous avons également eu Antoine Joly de la médiathèque à nos micros. Nous avons échangé avec Muriel Bloch, conteuse qui notamment sera ce soir à 20h sur la médiathèque où elle proposera un conte en musique, pourrions-nous dire. Nous avons également échangé avec Paul Chemetov qui est l'architecte de cette médiathèque d'Evreux et également avec Dominique Cholot, la conservatrice de cette médiathèque. Demain, nous revenons même endroit, même heure. À partir de 16h, nous serons en direct et nous rencontrerons également ceux qui font cette animation, cette vie de la médiathèque durant ce week-end particulier, car je le rappelle, c'était le week-end d'anniversaire. Pour réaliser, impacter cette émission, nous avons eu l'excellent Damien au micro et au reportage, le magnifique Monsieur Pignon à la réalisation et au reportage. Nous remercions tout particulièrement la médiathèque et son personnel pour son accueil. C'était plutôt cool, hein, voilà. Mais de toute façon, on revient demain, hein. Allez, à demain.
Le studio itinérant Principe Actif.
Je suis super dur pour les anglais.
Ah, voilà.
Oui, d'accord.
Je mettrai peut-être un petit commentaire sur le.
Mais quand oui, sur le site, oui, au contraire. Au contraire.
Je trouvais bien, hein, personnellement, mais même pour un adulte.
Après, voilà, il y a des différents niveaux de lecture, donc peut-être pour un certain ado, ça va passer.
Oui,
ça va bien passer. Puis pour d'autres, ça va, voilà, ça va être
difficile. Ouais, complètement.
Voilà.
Merci.